Africa Radio et nous,
Dieneba Dembélé,
mieux vivre au 21e siècle.
Cette semaine, dans Mieux vivre au 21e siècle, notre invitée est Bérangère Wallert. Elle est déléguée générale au sein d'Agir contre la prostitution des enfants, une association qui s'efforce depuis 1986 à prévenir les exploitations sexuelles qui impliquent les mineurs. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Bérangère, plus de 3 millions de mineurs sont prostitués dans le monde. En France, 7 à 10 000 enfants seraient victimes de la prostitution. Et j'utilise bien le mot victime.
Oui, tout à fait. Alors ce chiffre est très certainement très sous-évalué. Récemment, un chercheur, Aziz Essadegh, qui a fait des études un petit peu plus statistiques sur la prostitution des mineurs en France dans l'aide sociale à l'enfance, a fait des calculs, des estimations. Il y aurait 15 000 jeunes uniquement en France, uniquement dans l'aide sociale à l'enfance, victimes d'exploitation sexuelle, ce qui est synonyme de prostitution des mineurs. Donc ça veut dire que simplement dans l'aide sociale à l'enfance, il serait déjà 15 000. Donc à l'échelle de la France, c'est certainement, on a largement dépassé cette fourchette. Je vous rappelle que la fourchette de 7 à 10 000, c'est nous-mêmes, notre association, la CPE, qui l'avait fournie aux médias.
Oui. Alors pourquoi autant de mineurs sont concernés justement par la prostitution ?
Il y a beaucoup de raisons, et puis plein de raisons qui nous échappent, et puis peu à peu, on découvre des éléments. Alors certainement, la prostitution des mineurs n'est pas nouvelle.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un phénomène ancien, mais qui, un, a pris beaucoup d'ampleur, et deux, est beaucoup plus connu aujourd'hui.
Est-ce que c'est donc relatif à l'avènement des réseaux sociaux ?
C'est certainement relatif à plusieurs choses. Oui. Alors, déjà, pour expliquer la prostitution des mineurs, on est dans un contexte sociétal qui peut donner lieu à ce genre de comportement, déjà, dans le sens où la publicité, les réseaux sociaux, la pornographie, qui a pris une énorme ampleur chez les jeunes il y a quelques temps, et bien tout ça donne à penser que le corps est un peu une marchandise et que c'est un bien qu'on peut vendre, dont on peut disposer. La marchandisation du corps a vraiment gagné du terrain et je mets ça en lien beaucoup avec la pornographie. Il faut voir que la consommation de pornographie chez les mineurs a explosé dans un phénomène corrélé à l'équipement des plus jeunes avec un smartphone. Depuis 2013, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes se sont équipés d'un smartphone et donc la consommation de pornographie a augmenté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus accès aujourd'hui, quand on est un mineur de 11, 12, 13, 14, 15 ans, à la pornographie qu'on l'avait avant. Et donc la pornographie arrive avant toute relation sexuelle.
Oui.
Il y a ce contexte-là et il y a un contexte aussi très, très, très important. C'est que donc la parole adulte sur la sexualité, c'est la parole des marchands de pornographie.
Oui.
Il n'y a quasiment pas de parole à l'adulte. C'est-à-dire que dans les écoles, les adultes qui interviennent sur la vie affective et sexuelle, dans les familles, les parents, dans les centres d'aide sociale à l'enfance, les éducateurs, tous ces gens-là, nous adultes, nous ne prenons pas la parole, nous ne dialoguons pas avec les jeunes sur la question de la sexualité, du corps, du consentement, de l'estime de soi. Et donc, on se retrouve avec des jeunes qui ont comme parole sur la sexualité, la parole ambiante de la pornographie et des médias.
Mmh.
Et donc, évidemment, ça fait le lit de comportements qui peuvent poser problème.
Donc, ce serait une première façon déjà de prévenir la prostitution des mineurs, l'éducation sexuelle donc des proches, des familles et en milieu scolaire, c'est ça ?
Exactement, milieu scolaire, en milieu de foyers de social à l'enfance, parce que comme on sait, c'est un phénomène malheureusement qui fleurit et qui s'épanouit énormément dans les foyers d'aide sociale à l'enfance.
Oui.
Et donc, ils ont particulièrement besoin de ce soutien. Et pour parler un petit peu de ce que ça signifie, ces comportements sexuels particuliers.
J'allais vous demander, Bérangère, est-ce qu'il y a un profil type d'enfant victime de la prostitution ?
Oui et non. Non, dans le sens où on en voit par exemple dans tous les milieux, avec des profils vraiment sociaux en particulier très différents. Ça, il y en a partout. Mais il y a quelque chose que les jeunes qui se livrent à la prostitution ont en commun, presque tous, on pense tous, mais mettons des nuances parce qu'on n'a pas fait complètement le tour du sujet, c'est le trauma. On se rend compte que la quasi-totalité des jeunes filles et des jeunes, parce qu'il y a aussi des garçons qui sont victimes de prostitution, sont des jeunes qui, dans un premier temps, plus tôt dans leur histoire, ont vécu des traumatismes. Beaucoup de violences à la maison, violences sexuelles, des viols, des harcèlements scolaires, Et on se rend compte que ces jeunes, quand ils arrivent à la prostitution, ils ont dans leur parcours déjà traversé des traumatismes, des traumas, comme on dit dans le jargon.
Ces jeunes,
en fait, sont fragilisés.
Oui.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en voit beaucoup. Enfin, c'est certainement une des raisons qui explique que ce phénomène prend une ampleur tout à fait inédite dans les foyers d'aide sociale à l'enfance.
Oui.
C'est une des explications, on en voit plusieurs, mais c'est qu'en fait, dans ces foyers, bah, tous les enfants ont vécu en général des violences. S'ils sont là, c'est que dans l'immense majorité des cas, il y a eu des difficultés familiales majeures. Et donc ces jeunes-là ont déjà un petit peu des blessures affectives ou sont dans une situation personnelle difficile,
oui,
qui en font évidemment des proies faciles.
Est-ce que ça concerne surtout des filles âgées de 15 à 17 ans en moyenne ?
Alors, visiblement, l'âge le plus représenté, c'est 15 à 17 ans. Mais malheureusement, on voit aussi des... Parce qu'après 18 ans, ben, on les compte dans les majeurs. Donc,
oui.
15 à 18, voilà,
oui.
Donc, c'est pour ça qu'on ne les compte pas. Mais il y en a malheureusement des plus jeunes et même des beaucoup plus jeunes. Là, hier, par exemple, j'étais dans un procès qui impliquait une petite fille de 12 ans. Voilà.
Ah oui,
c'est vrai, la prostitution depuis déjà assez longtemps en plus.
C'est dramatique.
Donc en fait, beaucoup de 14 ans quand même, hein, 14-15 ans, mais le gros de la troupe c'est 15-17 ans.
Ouais. On va voir avec vous justement tout de suite comment identifier un mineur qui se prostitue, Bérangère.
Les signes de repérage, comme on les appelle, ils sont multiples, mais chaque signe isolé n'est pas forcément significatif. Ce qui est intéressant, c'est la multiplication des signes. Alors, il y en a plein.
Oui.
On a écrit déjà plusieurs articles, hein, à ce sujet.
Oui.
Il y a déjà un comportement particulier, un comportement qui change. Et ça peut arriver à l'adolescence, de l'agressivité, du repli. Des relations sociales qui changent, des,
oui,
amis qui changent, des centres d'intérêt, soudain des jeunes filles qui vont se mettre à être très intéressées par des choses qui ne les intéressaient pas avant, qui vont être attirées par l'argent. Donc
oui,
ça, voilà. Mais ça, c'est des éléments qui peuvent être un petit peu partagés avec... c'est un âge où on cherche les limites et on cherche à vivre autre chose. Donc ça peut exister et c'est important quand il y a quelqu'un... débute la prostitution, mais c'est pas significatif tout seul.
Oui.
Il y a d'autres éléments un petit peu plus visibles. C'est quand on trouve dans les affaires de l'enfant, de la jeune fille, souvent des objets insolites. Alors ça peut être beaucoup de préservatifs,
la lingerie fine,
la lingerie, des armes aussi, ça peut arriver. Enfin des objets comme ça un peu insolites.
Mm-hmm.
Quand on voit que c'est cette jeune fille où ce garçon peut sortir avec des gens beaucoup plus âgés. Quand on voit que cette jeune fille acquiert des objets de valeur dont l'origine est inexpliquée.
Oui.
Par exemple, des baskets ou des téléphones. Mmh. Alors, on voit aussi ces jeunes très, très, très attirés par leur téléphone qui se retrouvent dans une... Ils sont tous, hein, ils ont tous envie d'être avec leur téléphone. Quand on leur retire leur téléphone, on leur arrache le cœur. Mais là, ça prend des proportions qui paraissent étonnantes.
D'accord.
Voilà. Et puis le signe avec un grand S, c'est la fugue.
La fugue ?
Souvent, c'est à l'occasion d'une fugue qui a le premier comportement de prostitution. Et ensuite, pour continuer à se prostituer, les jeunes vont fuguer pendant une journée, deux jours, trois jours, avec parfois des déplacements dans d'autres villes de France. Il y a évidemment aussi, mais qui n'apparaît pas toujours tout de suite, de la consommation de stupéfiants.
Oui. Alors, agir contre la prostitution des enfants, je le disais, votre association travaille et œuvre dans cette lutte depuis 1986. Est-ce que vous pouvez nous parler des domaines dans lesquels vous intervenez et de vos missions?
En 86, on était lanceur d'alerte pour alerter la France sur le fait que de nombreux adultes allaient consommer de la prostitution en Asie. On a recentré nos activités en France. D'abord, on est sur le plan juridique.
Oui.
On accompagne les familles qui ont besoin de soutien, d'accompagnement juridique pour porter plainte, comment ça se passe. Et puis aussi judiciaire, on suit des procès. Il y a tout un groupe d'avocats qui font partie de l'Alliance des avocats aux droits de l'homme qui nous aident dans les procès. On se porte partie civile dans les procès grâce à eux qui travaillent pour nous pro bono, c'est-à-dire gratuitement.
Oui.
On a une quarantaine de procès en cours, là, actuellement, par exemple. On essaie de poursuivre essentiellement des proxénètes dans des affaires qui paraissent particulièrement marquantes et importantes à souligner.
Mm-hmm.
Donc, la partie juridique. On a la partie formation. On va former dans les foyers d'aide sociale à l'enfance, partout dans les différentes régions. On va former sur ce que c'est que ce phénomène.
Oui.
Donc, on a plusieurs personnes qui travaillent avec nous, une compagnie de théâtre, quelqu'un qui est spécialiste des comportements numériques sur ordinateur, sur Internet. Et voilà, on est tout un petit groupe à venir former beaucoup d'éducateurs et des professionnels de l'enfance sur le sujet. Oui. On fait de la communication, on essaye de continuer à être lanceur d'alerte, mais aussi à faire de l'information, de la communication grand public sur nos sujets. Avec des... L'année dernière, on a fait une campagne d'information TikTok, on continue, on est sur plusieurs sujets à la fois.
Oui, sur les supports qui parlent aux jeunes, oui.
En particulier, ouais, mais bon, ça pour l'instant on le fait pas beaucoup, mais on commence. Et aussi, on a une permanence ado-sexo avec plusieurs permanences en Île-de-France où des jeunes en situation de prostitution, leurs familles, leurs éducateurs, des policiers, tous ceux qui ont besoin de s'informer et d'avoir du soutien et de l'accompagnement psycho-éducatif, on fait de l'accompagnement psycho-éducatif de ces gens-là dans nos différentes permanences. Voilà, okay. Avec et une ligne téléphonique d'écoute, ça parle beaucoup par le téléphone, mais on a aussi une permanence physique dans plusieurs endroits de l'Île-de-France.
Quelle initiative, peut-être au sein de votre association, peut-être même en France ou même au-delà de la France, quelque part dans le monde, vous inspire le plus en matière de lutte contre la prostitution des mineurs ?
Je sais qu'il y a pas mal d'initiatives intéressantes au Canada. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de remonter le plus en amont possible au niveau de la prévention. Au Canada, oui. ils sont forts pour parler aux jeunes en particulier en milieu scolaire, sur votre corps, votre dignité, le corps de l'autre, l'estime de soi, ce que je veux, le consentement. Pour ça, ils sont très en avance. Oui. Et j'aimerais bien qu'on les rejoigne sur ces terrains-là, c'est sûr.
Vous nous avez à plusieurs reprises souligné l'importance de la prévention, du rôle éducatif. On va s'intéresser justement au rôle des parents, très sensible justement, puisque tout à l'heure nous évoquions les différents comportements qui pouvaient nous amener à penser, à douter sur l'activité de son enfant. C'est très délicat pour un parent de penser que son enfant pourrait se prostituer, Bérangère.
Oui, c'est difficile. Et d'ailleurs, beaucoup mettent du temps avant de le voir. Et il faudrait pas tout de suite imaginer que l'enfant a des comportements à risque et de prostitution.
Oui.
Mais le rôle des parents, c'est toujours le même, c'est-à-dire la vigilance. La vigilance. Je pense qu'en amont, les parents ont un rôle aussi tout simple de protéger les enfants sur les écrans. C'est déjà quelque chose de très important parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes, et de très jeunes en particulier, ont accès aux prédateurs qui vont les prostituer ou les clients. Par les réseaux sociaux. Donc quand on met des bons contrôles parentaux et qu'on surveille de près ce qui se passe sur le téléphone de son enfant, on est dans son rôle de parent. Mmh. Il y a des parents qui disent oui, leur jardin secret, etc. Rien ne les empêche. L'enfant, s'il a besoin d'écrire quelque chose de secret, d'écrire sur un carnet secret, dont il aura une petite clé. Mais sur les réseaux, sur Internet, ce n'est pas un jardin secret. La preuve, c'est partagé avec plein d'autres personnes.
Oui, donc, mais c'est...
Ce que je voulais dire, c'est que l'espace sur Internet de l'enfant n'est pas un jardin secret et ne doit pas l'être.
Mais c'est de plus en plus difficile de contrôler justement cet usage du smartphone, cet usage, ces fréquentations sur Internet. Fait face à une génération 2.0 qui s'enfonce vraiment dans...
En même temps, il y a des outils vraiment très intéressants. Les contrôles parentaux évitent dans bien des cas, que l'enfant se trouve confronté aussi à des images non sollicitées. Mmh. On se rend compte quand même qu'il y a un enfant sur deux qui a été visité par des images pornographiques, par exemple, sans l'avoir sollicité.
Oui.
Bon, ça, quand il y a un contrôle parental, on évite dans quasiment tous les cas que ça arrive. Et puis même, tous ces prédateurs, quand on évite, par exemple, à son enfant d'avoir un groupe d'amis ouvert, et on dit, sur Instagram, tu n'as qu'un groupe d'amis fermé. Ça veut dire que des gens qu'on a acceptés.
Ah oui,
vous voyez, il y a toutes ces nuances. Il faut que les parents aussi soient au courant de ce qui s'y passe. Mais toutes ces nuances qui font une énorme différence entre j'ouvre la porte à des prédateurs ou bien je suis avec des gens que je connais. Donc tout ça, c'est quand même important.
Bérangère Wallert, on va parler de ce que prévaut la loi en la matière. Alors en novembre dernier, un plan de lutte contre la prostitution des mineurs a été mis en place par le gouvernement. Un plan qui s'articule autour de 5 axes. L'amélioration de la formation, le renforcement du repérage, la protection des victimes, la façon dont sont réprimés plus efficacement les clients et les proxénètes, l'organisation d'un pilotage national. Que pensez-vous de ce plan ?
Ce plan, il était très attendu et on salue beaucoup le fait qu'enfin il y a un plan et des moyens, il y a 14 millions qui sont attendus, ils sont toujours pas
sortis. D'accord.
Donc voilà, et je pense que le plan, d'ailleurs on a été un petit peu aussi, on a fait partie des gens qui ont conseillé le gouvernement sur ce plan, c'est le secrétaire d'État, Damien Paquet, qui a mené ça, qui a porté ça. il y a beaucoup de choses, il manque aussi des choses, il faut aller plus loin.
Où est-ce qu'il faut aller plus loin selon vous ?
Eh ben, sur la partie prévention, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui a été prévu, un petit peu, il y a quelques éléments. Oui. Après, il faut le mettre en place. Il faut dire aussi que tout se structure, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on ne connaissait même pas le phénomène. Donc, il faut structurer, tout le monde est un petit peu hébété. Dans les centres de protection de l'enfance, il faut trouver des gens aussi pour relayer le phénomène, pour être capable de se former, de l'affronter, de discuter avec les jeunes. Il y a besoin de beaucoup de gens pour un phénomène qui a une telle ampleur.
Oui.
Donc, ça se met en place peu à peu. La meilleure nouvelle dans ce plan, c'est que ça s'appelle premier plan. Mmh. Ça suggère qu'il y en aura d'autres.
Qui contacter quand on constate qu'un enfant est dans une situation de prostitution ?
Alors la première chose, porter plainte. On peut aller du côté de la police si l'enfant est en train de fuguer, c'est souvent dans cette situation. Le vrai conseil, c'est de rester en lien avec son enfant, pas couper, pas lui. Puisque plus vous couperez, plus il va s'enfoncer dans un comportement prostitutionnel et être sous emprise de ceux qui cherchent à le mettre sous emprise, le ou la mettre sous emprise. Donc évidemment, garder un lien toujours le plus étroit possible avec son enfant. Et puis, il y a des professionnels qui peuvent s'en occuper. Alors, nous, on a un numéro avec plusieurs personnes qui peuvent prendre en charge et guider sur le plan éducatif les parents qui se retrouvent dans cette situation. 01 40 26 91 51, c'est le numéro de notre association. Et peut-être aussi, tout simplement, faire appel au personnel médical qui peuvent vous aider, le médecin traitant parfois, un psychologue, il y a des psychologues spécialisé en psychotrauma, et puis parfois à l'hôpital, il y a aussi des services. Le numéro aussi, le 116 000, quand un enfant est fugue, on essaye d'organiser un peu, pas la filière, mais on essaye d'organiser la prise en charge des jeunes, mais aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux, évidemment, pour répondre à toute la demande et à toute l'effroi qu'il y a autour
de ce phénomène,
de ce fléau.
De ce fléau. Bérangère Wallert, je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invitée cette semaine. On vous souhaite de passer une excellente journée.
Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup.
Merci.